Le jeune comte partit le surlendemain, accompagné des bénédictions de tous les habitués du cabinet des antiques, embrassé par les douairières, comblé de vœux, suivi hors de la ville par son vieux père, par sa sœur et par Chesnel, qui, tous trois, avaient les yeux pleins de larmes. Ce départ subit défraya pendant plusieurs soirées les entretiens de la ville. Il remua surtout les cœurs haineux du salon de Ducroisier. Après avoir juré la perte des Desgrignons, l'ancien fournisseur, le président et leurs adhérents voyaient leur proie s'échappant. Leur vengeance était fondée sur les vices de cet étourdi, désormais hors de leur portée. Une pente naturelle à l'esprit humain, qui fait souvent une débauchée de la fille d'une dévote, une dévote de la fille d'une femme légère, la loi des contraires, qui sans doute est la résultante de la loi des similaires, entraînait Victurnien vers Paris par un désir auquel il aurait succombé tôt ou tard. Élevé dans une vieille maison de province, entouré de figures douces et tranquilles qui lui souriaient, de gens graves affectionnés à leur maître et en harmonie avec les couleurs antiques de cette demeure, cet enfant n'avait vu que des amis respectables. Excepté le chevalier séculaire, tous ceux qui l'entourèrent avaient des manières posées, des paroles décentes et sentencieuses. Il avait été caressé par ses femmes à jupe grise, à mitaines brodées que Blondet vous a dépeintes. L'intérieur de la maison paternelle était décoré par un vieux luxe qui n'inspirait que les moins folles pensées. Enfin, instruit par un abbé sans fausse religion, plein de cette aménité des vieillards assis sur ces deux siècles qui apportent dans le nôtre les roses séchées de leur expérience et la fleur fanée des coutumes de leur jeunesse, Victurnien, que tout aurait dû façonner à des habitudes sérieuses, à qui tout conseillait de continuer la gloire d'une maison historique, en prenant sa vie comme une grande et belle chose, Victurnien écoutait les plus dangereuses idées. Il voyait dans sa noblesse un marchepied bon à l'élever au-dessus des autres hommes. En frappant cette idole encensée au logis paternel, il en avait senti le creux. Il était devenu le plus horrible des êtres sociaux et le plus commun à rencontrer, un égoïste conséquent. Amené par la religion aristocratique du « moi », à suivre ses fantaisies adorées par les premiers qui eurent soin de son enfance et par les premiers compagnons de ses folies de jeunesse, il s'était habitué à n'estimer toute chose que par le plaisir qu'elle lui rapportait et à voir de bonnes âmes réparant ses sottises, complaisance pernicieuse qui devait le perdre. Son éducation, quelque belle et pieuse qu'elle fût, avait le défaut de l'avoir trop isolée, de lui avoir caché le train de la vie à son époque, qui certes n'est pas le train d'une ville de province. Sa vraie destinée le menait plus haut. Il avait contracté l'habitude de ne pas évaluer le fait à sa valeur sociale, mais relative. Il trouvait ses actions bonnes en raison de leur utilité. Comme les despotes, il faisait la loi pour la circonstance, système qui est aux actions du vice ce que la fantaisie est aux œuvres d'art, une cause perpétuelle d'irrégularité. Doué d'un coup d'œil perçant et rapide, il voyait bien et juste, mais il agissait vite et mal. Je ne sais quoi d'incomplet, qui ne s'explique pas et qui se rencontre en beaucoup de jeunes gens, altérait sa conduite. Malgré son active pensée, si soudaine en ses manifestations, dès que la sensation parlait, la cervelle obscurcie semblait ne plus exister. Il eût fait l'étonnement des sages, il était capable de surprendre les fous. Son désir, comme un grain d'orage, couvrait aussitôt les espaces clairs et lucides de son cerveau, puis, après les dissipations contre lesquelles il se trouvait sans force, il tombait en des abattements de tête, de cœur et de corps, en des prostrations complètes où il était imbécile à demi, caractère à traîner un homme dans la boue quand il est livré à lui-même, à le conduire au sommet de l'État quand il est soutenu par la main d'un ami sans pitié. Ni Chesnel, ni le père, ni la tante n'avaient pu pénétrer cette âme qui tenait par tant de coins à la poésie, mais frappée d'une épouvantable faiblesse à son centre. Quand Victurnien fut à quelques lieues de sa ville natale, il n'éprouva pas le moindre regret, il ne pensa plus à son vieux père, qui le chérissait comme 10 générations, ni à sa tante, dont le dévouement était presque insensé. Il aspirait à Paris avec une violence fatale, il s'y était toujours transporté par la pensée, comme dans le monde de la féerie, et y avait mis la scène de ses plus beaux rêves. Il croyait y primer comme dans la ville et dans le département où régnait le nom de son père. Plein, non d'orgueil, mais de vanité, ses jouissances s'y agrandissaient de toute la grandeur de Paris. Il franchit la distance avec rapidité. De même que sa pensée, sa voiture ne mit aucune transition entre l'horizon borné de sa province et le monde énorme de la capitale. Il descendit rue de Richelieu, dans un bel hôtel, près du boulevard, et se hâta de prendre possession de Paris, comme un cheval affamé se rue sur une prairie. Il eut bientôt distingué la différence des deux pays. Surpris plus qu'intimidé par ce changement, il reconnut, avec la promptitude de son esprit, combien il était peu de chose au milieu de cette encyclopédie babylonienne, combien il serait fou de se mettre en travers du torrent des idées et des mœurs nouvelles. Un seul fait lui suffit. La veille, il avait remis la lettre de son père au duc de Lenoncourt, un des seigneurs français le plus en faveur auprès du roi. Il l'avait trouvé dans son magnifique hôtel, au milieu des splendeurs aristocratiques. Le lendemain, il le rencontra sur le boulevard, à pied, un parapluie à la main, flânant, sans aucune distinction, sans son cordon bleu, que jadis un chevalier des ordres ne pouvait jamais quitter. Ce duc et pair, premier gentilhomme de la chambre du roi, n'avait pu, malgré sa haute politesse, retenir un sourire en lisant la lettre du marquis, son parent. Ce sourire avait dit à Victurnien qu'il n'y avait plus de 60 lieues entre le cabinet des Antiques et les Tuileries, il y avait une distance de plusieurs siècles. À chaque époque, le trône et la cour se sont entourés de familles favorites, sans aucune ressemblance ni de nom ni de caractère avec celle des autres règnes. Dans cette sphère, il semble que ce soit le fait et non l'individu qui se perpétue. Si l'histoire n'était là pour prouver cette observation, elle serait incroyable. La cour de Louis XVIII mettait alors en relief des hommes presque étrangers à ceux qui ornaient celle de Louis XV. Les Rivières, les Blacas, les Davaret, les Dambray, les Vaublanc, Vitrolles, d'Autichan, la Roche-Jacquelin, Pasquier, Descazes, l'Aîné, de Villèle, la Bourdonnais, etc. Si vous comparez la cour de Henri IV à celle de Louis XIV, vous n'y retrouvez pas 5 grandes maisons subsistantes. Villeroy, favori de Louis XIV, était le petit-fils d'un secrétaire parvenu sous Charles IX. Le neveu de Richelieu n'y est presque rien déjà. Les d'Esgrignon, tout puissants sous Henri IV, quasi princiers sous les Valois, n'avaient aucune chance à la cour de Louis XVIII, qui ne songeait seulement pas à eux. Aujourd'hui, des noms aussi illustres que celui des maisons souveraines, comme les Foigrailly, faute d'argent, la seule puissance de ce temps, sont dans une obscurité qui équivaut à l'extinction. Aussitôt que Victurnien eut jugé ce monde, et il ne le jugea que sous ce rapport en se sentant blessé par l'égalité parisienne, monstre qui acheva sous la Restauration de dévorer le dernier morceau de l'État social, il voulut reconquérir sa place avec les armes dangereuses, quoique émoussées, que le siècle laissait à la noblesse. Il imita les allures de ceux à qui Paris accordait sa coûteuse attention. Il sentit la nécessité d'avoir des chevaux, de belles voitures, tous les accessoires du luxe moderne. Comme le lui dit de Marsay, le premier dandy qu'il trouva dans le premier salon où il fut introduit, il fallait se mettre à la hauteur de son époque. Pour son malheur, il tomba dans le monde des roués parisiens, des de Marsay, des Ronquerolles, des Maxime de Trailles, des Delupeau, des Rastignac, des Vandenesse, des Ajuda Pinto, des Beaudenord et des Manerville, qu'il trouva chez la marquise d'Espard, chez les duchesses de Grandlieu, de Carigliano, chez les marquises d'Aiglemont et de Listomère, chez madame de Sérisy, à l'opéra, aux ambassades, partout où le mena son beau nom et sa fortune apparente. À Paris, un nom de haute noblesse, reconnu et adopté par le faubourg Saint-Germain, qui sait ses provinces sur le bout des doigts, est un passeport qui ouvre les portes les plus difficiles à tourner sur leurs gonds, pour les inconnus et pour les héros de la société secondaire. Victurnien trouva tous ses parents aimables et accueillants dès qu'il ne se produisit pas en solliciteur. Il avait vu sur le champ que le moyen de ne rien obtenir était de demander quelque chose. À Paris, si le premier mouvement est de se montrer protecteur, le second, beaucoup plus durable, est de mépriser le protégé. La fierté, la vanité, l'orgueil, tous les bons comme les mauvais sentiments du jeune comte, le portèrent à prendre, au contraire, une attitude agressive. Les ducs de Lenoncourt, de Chaulieu, de Navarreins, de Grandlieu, de Maufrigneuse, le prince de Blamont-Chauvry, se firent alors un plaisir de présenter au roi ce charmant débris d'une vieille famille. Victurnien vint aux Tuileries, dans un magnifique équipage aux armes de sa maison, mais sa présentation lui démontra que le peuple donnait trop de soucis au roi pour qu'il pensât à sa noblesse. Il devina tout à coup l'ilotisme auquel la Restauration, bardée de ses vieillards éligibles et de ses vieux courtisans, avait condamné la jeunesse noble. Il comprit qu'il n'y avait pour lui de place convenable ni à la cour, ni dans l'État, ni à l'armée, enfin nulle part. Il s'élança donc dans le monde des plaisirs. Produit à l'Élysée Bourbon, chez la Duchesse d'Angoulême, au pavillon Marsan, il rencontra partout les témoignages de politesse superficielle dus à l'héritier d'une vieille famille dont on se souvint quand on le vit. C'était encore beaucoup qu'un souvenir. Dans la distinction par laquelle on honorait Victurnien, il y avait la pairie et un beau mariage, mais sa vanité l'empêcha de déclarer sa position. Il resta sous les armes de sa fausse opulence. Il fut d'ailleurs si complimenté de sa tenue, si heureux de son premier succès, qu'une honte éprouvée par bien des jeunes gens, la honte d'abdiquer, lui conseilla de garder son attitude. Il prit un petit appartement dans la rue du Bac, avec une écurie, une remise et tous les accompagnements de la vie élégante à laquelle il se trouva tout d'abord condamné. Cette mise en scène exigea 50 000 francs, et le jeune comte les obtint, contre toutes les prévisions du sage Chesnel, par un concours de circonstances imprévues. La lettre de Chesnel arriva bien à l'étude de son ami, mais son ami était décédé. En voyant une lettre d'affaires, Madame Sorbier, veuve très peu poétique, la remit au successeur du défunt. Maître Cardot, le nouveau notaire, dit au jeune comte que le mandat sur les trésors serait nul s'il était à l'ordre de son prédécesseur. En réponse à l'épître si longuement méditée par le vieux notaire de province, Maître Cardot écrivit une lettre de 4 lignes pour toucher, non pas Chesnel, mais la somme. Chesnel fit le mandat au nom du jeune notaire qui, peu susceptible d'épouser la sentimentalité de son correspondant et enchanté de se mettre aux ordres du comte d'Esgrignon, donna tout ce que lui demandait Victurnien. Ceux qui connaissaient la vie de Paris savent qu'il ne faut pas beaucoup de meubles, de voitures, de chevaux et d'élégance pour employer 50 000 francs. Mais ils doivent considérer que Victurnien eut immédiatement pour une 20 000 francs de dettes chez ses fournisseurs, qui d'abord ne voulurent pas de son argent, sa fortune étant assez promptement grossie par l'opinion publique et par Joséphin, espèce de Chesnel en livrée. Un mois après son arrivée, Victurnien fut obligé d'aller reprendre une 10 000 francs chez son notaire. Il avait simplement joué au whist chez les ducs de Navarreins, de Chaulieu, de Lenoncourt et au Cercle. Après avoir d'abord gagné quelques milliers de francs, il en eut bientôt perdu 5 ou 6 000 et sentit la nécessité de se faire une bourse de jeu. Victurnien avait l'esprit qui plaît au monde et qui permet aux jeunes gens de grande famille de se mettre au niveau de toute élévation. Non seulement il fut aussitôt admis comme un personnage dans la bande de la belle jeunesse, mais encore il y fut envié. Quand il se vit l'objet de l'envie, il éprouva une satisfaction enivrante, peu faite pour lui inspirer des réformes. Il fut sous ce rapport insensé. Il ne voulut pas penser aux moyens. Il puisa dans ses sacs, comme s'il devait toujours se remplir, et se défendit à lui-même de réfléchir à ce qu'il adviendrait de ce système. Dans ce monde dissipé, dans ce tourbillon de fêtes, on admet les acteurs en scène sous leurs brillants costumes, sans s'enquérir de leurs moyens. Il n'y a rien de plus mauvais goût que de les discuter. Chacun doit perpétuer ses richesses comme la nature perpétue la sienne, en secret. On cause des détresses échues, on s'inquiète en raillant de la fortune de ceux que l'on ne connaît pas, mais on s'arrête là. Un jeune homme comme Victurnien, appuyé par les puissances du faubourg Saint-Germain et à qui ses protecteurs eux-mêmes accordaient une fortune supérieure à celle qu'il avait, ne fût-ce que pour se débarrasser de lui, tout cela très finement, très élégamment, par un mot, par une phrase, enfin un comte à marier, joli homme, bien pensant, spirituel, dont le père possédait encore les terres de son vieux marquisat et le château héréditaire, ce jeune homme est admirablement accueilli dans toutes les maisons où il y a des jeunes femmes ennuyées, des mères accompagnées de filles à marier ou des belles danseuses sans dot. Le monde l'attira donc en souriant sur les premières banquettes de son théâtre. Les banquettes que les marquis d'autrefois occupaient sur la scène existent toujours à Paris où les noms changent, mais non les choses. Victurnien retrouva dans la société du faubourg Saint-Germain, où l'on se comptait avec le plus de réserve, le double du chevalier, dans la personne du vidame de Pamiers. Le vidame était un chevalier de Valois, élevé à la 10e puissance, entouré de tous les prestiges de la fortune et jouissant des avantages d'une haute position. Ce cher vidame était l'entrepôt de toutes les confidences, la gazette du faubourg, discret néanmoins et, comme toutes les gazettes, ne disant que ce que l'on peut publier. Victurnien entendit encore professer les doctrines transcendantes du chevalier. Le vidame dit à d'Esgrignon, sans le moindre détour, d'avoir des femmes comme il faut, et lui raconta ce qu'il faisait à son âge. Ce que le vidame de Pamiers se permettait alors est si loin des mœurs modernes où l'âme et la passion jouent un si grand rôle qu'il est inutile de le raconter à des gens qui ne le croiraient pas. Mais cet excellent vidame fit mieux. Il dit en forme de conclusion à Victurnien : Je vous donne à dîner demain au cabaret. Après l'opéra où nous irons digérer, je vous mènerai dans une maison où vous trouverez des personnes qui ont le plus grand désir de vous voir. Le vidame lui donna un délicieux dîner au rocher de Cancale, où il trouva trois invités seulement, de Marsay, Rastignac et Blondet. Émile Blondet était un compatriote du jeune comte, un écrivain qui tenait à la haute société par sa liaison avec une charmante jeune femme, arrivée de la province de Victurnien, cette demoiselle de Tréville mariée au comte de Montcornet, un des généraux de Napoléon qui avait passé au Bourbon. Le vidame professait une profonde mésestime pour les dîners où les convives dépassaient le nombre 6. Selon lui, dans ce cas, il n'y avait plus ni conversation, ni cuisine, ni vin goûté en connaissance de cause. « Je ne vous ai pas appris encore où je vous mènerai ce soir, cher enfant, » dit-il en prenant Victurnien par les mains et les lui tapotant. « Vous irez chez Mademoiselle des Touches, où seront en petit comité toutes les jeunes jolies femmes qui ont des prétentions à l'esprit. » La littérature, l'art, la poésie, enfin les talents y sont en honneur. C'est un de nos anciens bureaux d'esprit, mais vernissé de morale monarchique, la livrée de ce temps-ci. C'est quelquefois ennuyeux et fatigant comme une paire de bottes neuves, mais il s'y trouve des femmes à qui l'on ne peut parler que là, dit de Marsay. Si tous les poètes qui viennent y décroter leurs muses ressemblaient à notre compagnon, dit Rastignac en frappant familièrement sur l'épaule de Blondet, on s'amuserait. Mais l'ode, la balade, les méditations à petits sentiments, les romans à grande marge, infestent un peu trop l'esprit et les canapés. Pourvu qu'ils ne gâtent pas les femmes et qu'ils corrompent les jeunes filles, dit de Marsay, je ne les hais pas. Messieurs, dit en souriant Blondet, vous empiétez sur mon champ littéraire. Tais-toi, tu nous as volé la plus charmante femme du monde, heureux drôle, s'écria Rastignac, nous pouvons bien te prendre tes moins brillantes idées. « Oui, le coquin est heureux, » dit le vidame en prenant Blondet par l'oreille et la lui tortillant. « Mais Victurnien sera peut-être plus heureux ce soir. »« Déjà ?» s'écria de Marsay. « Le voilà depuis un mois ici. À peine a-t-il eu le temps de secouer la poudre de son vieux manoir, d'essuyer la saumure où sa tante l'avait conservée. À peine a-t-il eu un cheval anglais un peu propre, un tilbury à la mode, un groom ?» Non, il n'a pas de groom, dit Rastignac en interrompant de Marsay. Il a une manière de petit paysan qu'il a amené de son endroit, et que Buisson le tailleur, qui comprend mieux les habits de livrée, déclare inhabile à porter une veste. Le fait est que vous auriez dû, dit gravement le vidame, vous modeler sur Beaudenord, qui a sur vous tous, mes petits amis, l'avantage de posséder le vrai tigre anglais. « Voilà donc, messieurs, où en sont les gentilshommes en France ?» s'écria Victurnien. « Pour eux, la grande question est d'avoir un tigre, un cheval anglais et des babioles. »« Ouais, » dit Blondet en montrant Victurnien. « Le bon sens de monsieur, quelquefois, m'épouvante. »« Eh bien oui, jeune moraliste, vous en êtes là. Vous n'avez même plus, comme le cher vidame, la gloire des profusions qui l'ont rendu célèbre il y a 50 ans. »« Nous faisons de la débauche à un second étage, remonte Orgueil. Il n'y a plus de guerre avec le cardinal ni de camp du drap d'or. » Enfin, vous, comte d'Esgrignon, vous soupez avec un sieur Blondet, fils cadet d'un misérable juge de province, à qui vous ne donniez pas la main là-bas, et qui, dans 10 ans, peut s'asseoir à côté de vous parmi les pairs du royaume. Après cela, croyez-en vous si vous pouvez. Eh bien, dit Rastignac, nous sommes passés du fait à l'idée, de la force brutale à la force intellectuelle. Nous parlons... Ne parlons pas de nos désastres, dit le vidame. J'ai résolu de mourir gaiement. « Si notre ami n'a pas encore de tigre, il est de la race des lions, il n'en a pas besoin. »« Il ne peut s'en passer, » dit Blondet, « il est trop nouvellement arrivé. »« Quoique son élégance soit encore neuve, nous l'adoptons, » reprit de Marsay. « Il est digne de nous, il comprend son époque, il a de l'esprit, il est noble, il est gentil, nous l'aimerons, nous le servirons, nous le pousserons. »« Où ?» dit Blondet. « Curieux, » répliqua Rastignac. « Avec qui s'emménage-t-il ce soir ?» demanda de Marsay. « Avec tout un sérail, » dit le vidame. « Peste, qu'est-ce donc, » reprit de Marsay, « pour que le cher vidame nous tienne rigueur en tenant parole à l'infante. J'aurais bien du malheur si je ne la connaissais pas. »« J'ai pourtant été fat comme lui, » dit le vidame en montrant de Marsay. Après le dîner qui fut très agréable, et sur un ton soutenu de charmante médisance et de jolie corruption, Rastignac et de Marsay accompagnèrent le vidame et Victurnien à l'opéra pour pouvoir les suivre chez Mademoiselle des Touches. Ces deux roués y allèrent à l'heure calculée où devait finir la lecture d'une tragédie, ce qu'ils regardaient comme la chose la plus malsaine à prendre entre 11h et minuit. Ils venaient pour espionner Victurnien et le gêner par leur présence, véritable malice d'écolier, mais aigri par le fiel du dandy jaloux. Victurnien avait cette effronterie de page qui aide beaucoup à l'aisance. Aussi, en observant le nouveau venu faisant son entrée, Rastignac s'étonna-t-il de sa prompte initiation aux belles manières du moment. « Ce petit desgrignon ira loin, n'est-ce pas ? » dit-il à son compagnon. « C'est selon, » répondit de Marsay, « mais il va bien. » Le vidame présenta le jeune homme à l'une des duchesses les plus aimables, les plus légères de cette époque, et dont les aventures ne firent explosion que 5 ans après. Dans tout l'éclat de sa gloire, soupçonnée déjà de quelque légèreté, mais sans preuve, elle obtenait alors le relief que prête à une femme comme à un homme la calomnie parisienne.